Bonjour à tous. Dans votre grande table du lundi, les mémoires d'une passionnariat de la cause algérienne. Dans une décennie, les années 60, où Alger était la capitale de la révolution, prise dans l'effervescence des luttes anticoloniales, l'américaine Elaine Moctefi nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, deux fois prix du meilleur album à Angoulême pour le premier volume d'Isaac le Pirate et le second de Quai d'Orsay, l'auteur de bande dessinée et illustrateur Christophe Blain est notre premier invité. Avec Michel Picmal, il livre une version repensée d'un album paru en 2004. Adaptation du héros de Edgar Wallace, King Kong reparaît chez Robinson Éditions, accompagné d'une exposition de ses dessins à la galerie Barbier et Maton à Paris à partir du 28 juin. Vous savez tout, bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Est-ce que vous connaissez l'histoire de King Kong, une île au large de Sumatra, un réalisateur qui part y tourner avec sa star, une jeune femme qu'il a trouvée dans la rue, Anne Darrow, qui rencontre à bord le marin Jack. Arrivée sur l'île, Anne est enlevée pour être offerte par une tribu indigène au dieu Kong, un immense gorille qui emmène la belle en haut de sa montagne. Jack, l'amoureux, la libère, Kong est capturé, ramené à New York pour une vie de bête de foire. Mais Kong aime Anne et l'enlève à nouveau. Bonjour Christophe Blain.
Bonjour.
Cette histoire, elle vous manquait. D'où est née l'envie de la recommencer ?
Parce que pas mal de gens m'écrivaient sur Facebook, en tout cas faisaient passer le message, et j'ai eu le sentiment que c'était un bouquin qui était devenu culte. Que j'avais, c'était un bouquin de commande que j'avais fait pour les enfants en 2003-2004. Et j'ai rencontré un éditeur, l'éditeur de chez Robinson, Hachette, Céleste Surugue, et qui on a eu envie de travailler ensemble. On s'est dit pourquoi on reprendrait pas ça finalement.
Donc c'est pas venu de vous, c'est venu de vos lecteurs, parce que
oui,
c'était sorti en 2004, mais depuis le
oui,
roman graphique,
ça,
la bande dessinée était épuisée.
Régulièrement, je voyais des échos qui me revenaient en me disant que c'est un bouquin qu'ils aimaient bien parce qu'il y avait, je m'étais amusé en le faisant. Il y avait certains dessins que c'était amusant d'ailleurs de les redécouvrir, parce que je me dis je serais plus capable de le faire. C'est comme tous les travaux qu'on a fait il y a longtemps, comme ça, voilà, 15 ans, il y a des choses, on redécouvre, on se dit, tiens, mais c'est marrant, ça, je le ferais plus du tout de cette manière-là. Est-ce que je le ferais? Certaines choses, j'ai l'impression que je les ferais moins bien, il y a d'autres que je ferais mieux. Donc c'était assez amusant de reprendre comme ça les choses et de remasteriser l'album.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne revit jamais une histoire deux fois de la même manière, que ce soit en dessin, que ce soit en amour ou au travail. 15 ans plus tard, vous pensez que c'est vous, votre dessin, qui a gagné en maturité, qui a changé?
Les deux. Non, je sais pas. Oui, bah forcément, j'ai évolué, j'ai gagné en maturité, ça c'est sûr. Je suis plus vieux. Mais non, c'était très intéressant de le réexplorer. Il y a des dessins d'ailleurs que j'ai totalement abandonnés, que j'ai refait entièrement. Il y en a d'autres que j'ai juste restaurés. Il y en a que j'ai quasiment pas touché. J'ai refait les couleurs. On a refait une maquette avec un excellent graphiste qui est avec lequel je travaille depuis que j'ai commencé la bande dessinée. Ça doit faire plus de 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble, Philippe Ravon. Et on a fait vraiment. Je m'attendais juste à reprendre l'album comme ça. En fait, ça a été un très gros travail. C'était un travail assez étrange et sur lequel je me suis pas mal amusé. J'ai réancré toutes les pages. J'ai vu qu'il y a des choses des dessins qui me semblaient plus du tout d'actualité. Il y en a que j'ai laissé volontairement, que je ne traiterai plus comme ça maintenant, mais que j'ai laissé tels qu'ils étaient. Je les ai juste un peu nettoyés ou je les ai rendus un peu plus élégants. Et oui, c'est un travail. Ça m'a vraiment amusé de reprendre un truc ancien comme ça et de réexplorer une façon de faire que je ne ferai plus. Et il y en a par contre qui me semblent encore d'actualité pour moi. Oui.
On peut réouvrir le livre. On peut ouvrir le livre ensemble éventuellement. Mais du coup, je crois que vous n'avez pas votre exemplaire. Je vous prête le mien.
Oui.
Quelle est la planche, le dessin que vous avez complètement réintérprété?
Alors,
pour exemple, ou celui que vous avez à peine touché.
Il y a une scène que j'ai traitée complètement différemment. C'est la
La scène du repas, quand
ouais, la scène du repas
rencontre Anne.
Où le cinéaste qui s'appelle Carl Denham invite à manger l'héroïne, Anne. Et dans la première version, j'avais imaginé qu'ils étaient en haut d'une tour, enfin comme s'ils mangeaient en haut de l'Empire State Building, enfin d'une tour luxueuse comme ça, qui avec une vue panoramique dans un restaurant chic sur New York, qui est de nuit. Et je trouvais ça assez assez intéressant. Je l'ai vraiment pour garder l'atmosphère monumentale de New York, avec un côté un peu à la Sampé, c'est-à-dire que les personnages étaient petits dans l'image, avec des plafonds très hauts, avec ça. Et puis j'ai repris cette illustration qui me plaisait pas tellement, en fait, quand je la revoyais.
Pour là, faire quelque chose. Vous les avez mis dans un diner.
Voilà, ils sont dans un diner, dans une situation beaucoup plus intime, et on est proche des personnages, et on voit que elle est à la bouche pleine, elle est en train de manger assez goulûment. Elle a plein de plats devant elle, et lui la regarde avec un œil de. On pourrait croire en fait que c'est un monsieur qui essaye de la séduire, mais finalement c'est pas l'attirance physique, c'est ce qu'elle représente et ce qu'il imagine déjà ce qu'il va en faire. Et la chose à laquelle j'ai absolument tenu dès la première fois que j'ai fait ce livre et là aussi quand je l'ai repris, c'était de ne surtout pas voir le film de Cooper et Chodzak parce que la proposition visuelle était trop forte. Donc je n'ai travaillé que sur des souvenirs. Sans forcément coller même aux souvenirs que j'avais du film, évidemment dans la même ambiance, parce que on part pas d'un livre, on part déjà d'une proposition visuelle forte qui est un film. C'est pas l'adaptation d'un livre, quoique, puisque en réalité ce qui a inspiré King Kong c'est Conan Doyle avec Le Monde Perdu, qui était une aventure du professeur Challenger, qui était un héros, je pense que c'est une littérature pour adolescents de fin 19e, avec des épisodes, et le professeur Challenger découvrait un monde perdu, justement, où une espèce de Jurassique était resté intact sur un plateau, c'était pas sur une île, c'était sur un plateau en haut de falaise en Amérique du Sud, en Argentine, une espèce d'endroit qui n'existe pas. Et il ramenait à Londres, et il ramenait des spécimens de dinosaures, dont un ptérodactyle. Et à la fin, il le montre devant une assemblée, et le ptérodactyle s'échappe par la fenêtre. Et c'est à partir de ce roman de Conan Doyle que le personnage de King Kong est né, enfin il a inspiré. Il y a eu un film d'ailleurs sur le Monde Perdu qui était un film de 1925, un film muet qui est très très poétique, très spectaculaire, et où il y avait un peu la même façon de traiter les trucages, les marionnettes. Je me demande si c'est pas la même équipe qui a travaillé sur le. C'est les mêmes animateurs qui ont travaillé sur le King Kong et sur le Monde Perdu, et qui évidemment inspiré après Michael Crichton puis Steven Spielberg. Le lien. Donc ça, on part quand même au départ d'un roman.
On parle du King Kong, voilà, de 1933, parce qu'il y en a eu encore plusieurs adaptations au cinéma aussi par la suite.
Oui, mais c'est le seul.
C'est le seul. C'est celui qui a aussi, on imagine, marqué votre imaginaire d'enfant. Adapté, illustré, c'est quand même assez différent du travail d'auteur que vous faites quand vous inventez vos propres histoires, vos propres bandes dessinées. Est-ce que l'exercice est pour autant aussi séduisant? C'est-à-dire, dans cet imaginaire qui avait déjà ces images, vous disiez, j'ai pas regardé le film, j'ai pas re-regardé le film avant de me mettre à...
C'est-à-dire que quand on est illustrateur, quand on est dessinateur, quand on écrit, d'être confronté au mythe fondateur, ça a toujours quelque chose de particulier. C'est amusant parce que la même année, j'avais fait l'illustration d'un livre de François Bunel qui était consacré à la mythologie grecque. Et de dessiner comme ça des personnages qui sont vraiment des mythes fondateurs. Qui font partie de l'imaginaire collectif, c'est toujours quelque chose de particulier. Je sais pas, comme je donne toujours cet exemple de dessiner, que ce soit, mettons, Dracula, Frankenstein, enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont comme ça, très visuellement, qui nous sont ancrées, qui appartiennent à tout le monde. C'est très particulier, c'est toujours excitant. Il y a un côté vraiment excitant parce que, il y a une certaine facilité, on se repose, et en même temps, on veut pas décevoir, on veut arriver à faire quelque chose de Donc on y met. Mais c'est beaucoup plus facile qu'évidemment un travail d'auteur. On se repose sur quelque chose. On se repose sur quelque chose qui est déjà fait. Et puis dessiner le New York des années 30, une scène, tout l'aspect monumental permet.
Alors, je sais pas, est-ce que ça a été la scène la plus difficile à dessiner, celle de l'Empire State Building quand Kong contemple la ville des hommes lorsqu'il vit d'étranges oiseaux arriver sur lui, cette scène avec à la fois le gigantisme des gratte-ciels et le gigantisme du gorille.
Là, on lâche tout, on est content là. C'est un jeu de petit garçon. Je dessine des avions, des biplans. C'est évidemment la scène quand je l'avais découvert. J'avais découvert ce film à l'âge de 6-7 ans. C'est des moments où on est, surtout qu'à l'époque, je suis dans le 70, donc à l'époque, le film était déjà, avait un aspect déjà très vintage, très, très dépassé, mais quoique, en fait, c'était bien avant les. Ça marche aussi bien que les images de synthèse, d'ailleurs, je trouve. Ça marche même mieux, parce que c'est beaucoup plus incarné. Et non, c'était déjà spectaculaire. C'était déjà, j'avais déjà été très, très impressionné. Et de le dessiner, il y a une espèce d'évidence. On est vraiment content de pouvoir dessiner des choses comme ça. On est content de pouvoir dessiner des choses épiques, excessives, monumentales. Où il y a une action, une espèce d'hyperaction, hyper violente, hyper vraiment avec un souffle. C'est pour un illustrateur, c'est une sorte de cadeau.
Lorsqu'il aperçut Anne, son visage se radoucit. Avec délicatesse, il s'approcha d'elle et délia ses poignets. Il la serra tendrement dans ses bras. Plus tard, à la fin, mitraillé de balles, avant de tomber dans le vide, King Kong prit doucement Anne dans le creux de sa main, la regarda de ses yeux tristes, puis la reposa dans une dernière caresse.
Lieutenant, I'm Carl Denham. Carl Denham?
Denham? Oh, that's the man that captured the monster.
Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was Beauty killed the beast.
C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre la belle et la bête. Quelle forme prend la bestialité ici, à vos yeux, Christophe Blain? Quelle apparence adopte-t-elle ici?
J'ai fait un gorille extrêmement puissant, mais il est étonné de. Il est très. On voit qu'il est fasciné par cette femme. Sur la couverture, on le voit qu'il la tient délicatement dans ses mains. J'ai fait une autre couverture pour la version noir et blanc où en fait il la découvre lorsqu'elle est attachée sur son autre espèce d'autel sur lequel elle lui est présentée. Et puis le King Kong, en fait, il n'a pas de. Mon King Kong est monumental, dans le sens, c'est un monument en fait. Il est beaucoup plus grand que dans le King Kong de 33. C'est un gorille qui fait, je sais pas quelle taille il fait, mais j'ai fait un gorille de 25 mètres, 30 mètres, parce que en fait, il a pas de. C'est un symbole, c'est devenu un symbole. Il a plus de. Dans le texte de Michel Picmal, il dit de la serrer dans ses bras. En réalité, elle tient dans le creux de sa main. Mais peu importe, c'est le symbole qu'il représente. Mais de dessiner cette puissance. Moi, j'adore dessiner les animaux. Je fais beaucoup de carnets de croquis. J'ai commencé en faisant des carnets de voyage, en dessinant tout ce que je voyais autour de moi. Je le fais un petit peu moins maintenant, mais j'ai toujours des carnets sur moi. Et une des choses que je préfère dessiner, j'adore aller dans les eaux et dessiner des animaux, même en mouvement, etc. Quand j'avais un chat, je le dessinais tout le temps. Donc là, d'avoir un personnage animal comme ça, j'en ai d'autres dans mes bandes dessinées, que j'avais créées avec Johan Sfar, qui était un chien, Socrate le demi-chien. Et à chaque fois que des animaux apparaissent, c'est super jouissif à dessiner. Et surtout quand c'est un animal puissant comme ça. Un animal, on sent son. Oui, qu'il a quelque chose de. J'aime beaucoup un illustrateur qui est. Beaucoup redécouvert maintenant, qui s'appelle N.C. Wyatt, qui dessine toujours des personnages, lui, humains, mais très. Même des chevaux aussi, ça lui arrive. Il dessine aussi des animaux, c'est souvent des chevaux, qui sont très puissants, très trapus. Et c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, qui est très agréable, parce que ça, je ne sais pas, ça pose le dessin, et de pouvoir faire le contraste avec une femme comme ça, qui est minuscule et très délicate. ça fait partie des effets quand on est illustrateur qui sont très, enfin pour moi en tout cas, qui sont très agréables à utiliser le mélange entre l'intimité. Par exemple, la scène de dîner où on est très proche des personnages, ou par moments elle est très proche aussi du marin qui est amoureux d'elle. Des scènes d'intimité, de douceur, où les personnages ne font pas grand-chose, ils sont en train de se parler, ils se regardent. Ils peuvent être gênés, ils peuvent être fascinés, on ne sait pas, ils peuvent avoir peur, mais on les voit comme ça dans des situations assez délicates. Et en même temps, dessiner des choses monumentales, lourdes, puissantes, et faire le contraste entre les deux, ça permet tout un tas d'effets, de lumière, de cadrage qui sont hyper agréables à faire.
Mais c'est vrai que ce King Kong est aussi une fable sur la bestialité. Il est massif à l'extérieur et puis au fond, et on le voit dans sa manière de porter cette femme dont il est amoureux, il est peut-être le plus fragile d'entre tous et peut-être aussi le plus humain. Vous disiez, c'est un symbole tout à l'heure. C'est Virginie Despentes, dans son essai manifeste King Kong Théorie, sorti en 2006, qui disait que King Kong était au-delà de la femelle et au-delà du mâle, qu'il était à la charnière entre l'homme et l'animal, entre l'adulte et l'enfant, entre le bon et le méchant, entre le primitif et le civilisé, qu'il était au fond un être hybride avant cette obligation qui serait imposée à tous aujourd'hui d'être binaire. Vous, quelle est votre King Kong théorie à propos de King Kong? De quoi est-il pour vous vraiment la métaphore?
Ce que je disais, c'est la fascination, en fait, c'est la fascination pour cette... Ce qui est intéressant, c'est de montrer la fascination de ce monstre pour cette petite femme délicate. Mais c'est des sujets que j'ai traité beaucoup à l'inverse aussi. Enfin, j'ai traité les deux côtés, une femme géante et un homme minuscule, ou alors une femme de taille normale. J'ai fait des histoires là-dessus. J'ai fait des livres là-dessus avec un homme qui est de taille minuscule et une femme de taille normale, donc elle est géante pour lui. Enfin, ce rapport de taille entre l'homme et la femme disproportionné, mais qui n'empêche pas une histoire d'amour. On ne sait pas trop comment elle s'accomplit parce qu'elle a pas de sens. C'est un thème que j'ai très souvent traité, que je continue de traiter et qui m'amuse parce que en fait c'est la métaphore des rapports, enfin de l'excès qu'il peut y avoir dans les rapports, de la passion, des choses qui sont plus grands que nature, hein, plus grands que ce qu'on vit, parce que voilà, il y a une attirance, King Kong est totalement désarmé vis-à-vis d'elle, et en même temps il est incroyablement dangereux. Mais c'est un King Kong, j'aurais tendance à dire que celui que j'ai fait un peu plus doux que celui de Cooper et Chutzak, il est moins... Il est effrayant par son côté monumental, mais un peu moins. Puis il a quelque chose de très étrange, celui du film de 33, avec des yeux qui roulent. C'est pas vraiment. Il a des énormes yeux qui roulent comme ça. Et il est très énigmatique. Il est vraiment effrayant. Celui de Jackson surjoue et assez ridicule. Et celui des années 70, je me rappelle pas très bien, avec Jessica Lange, il m'a pas tellement marqué, en fait. Je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est pas un film qui m'a tellement marqué. Là, je l'ai très humanisé et il est quand même, on voit tout de suite, on lit immédiatement l'amour dans ses yeux. Oui.
Cette île au large de Sumatra, King Kong vous emmène là où le voyage ne vous guidera plus, ni vous ni nous d'ailleurs, Christophe Blin, là où ce que vous racontiez dans vos carnets d'un matelot, dans vos carnets polaires aussi, cet ailleurs, aujourd'hui, cette distinction entre le monde civilisé et le monde sauvage, tout a été domestiqué presque partout sur l'ensemble de la planète. Vous pensez qu'il reste des mondes perdus et que si oui, ils sont à trouver d'abord dans nos imaginaires, ces mondes-là?
Oui, c'est des paradis perdus, donc ils n'existent pas. Le principe du paradis perdu, c'est qu'il est... On ne peut jamais l'atteindre parce qu'il est... C'est un endroit qui est une nostalgie d'un endroit qui n'a jamais existé. Non, voilà, il faut se la réinventer, la sauvagerie. Il faut se la réinventer. Peut-être, et je n'ai pas été partout sur Terre, hein. Il y a peut-être des endroits où effectivement on a une impression de virginité comme ça, de la nature et de la vie, je ne sais pas. Mais c'est déjà à l'époque de Conan Doyle, hein, je pense qu'il y avait l'idée qu'on avait déjà presque tout découvert à ce moment-là, et l'idée qu'il restait encore quelque chose à découvrir, qu'il y avait encore du mystère, c'est très excitant. Là maintenant, c'est vrai qu'on arrive au bout, c'est très inquiétant.
Qu'est-ce qu'il faut raconter à nos enfants pour faire travailler leur imagination? Je vous propose d'écouter les mots de votre co-auteur sur ce King Kong, Michel Picmal, à qui l'on doit ici le texte, et précédemment les philofables. Les enfants sont-ils plus aventuriers que les grands?
Ce que je sais de l'enfant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a une grande ouverture. Il est prêt à tous les possibles, il est absolument prêt à tout. Donc ça a à la fois un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que je crois que bon, quand on leur raconte des histoires et qu'on les interroge, c'est aussi parce qu'on sent qu'il y a un vide de sens aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui et qu'il faut revenir vers du sens, qu'il faut revenir vers un questionnement et pas rester comme ça sur des choses dogmatiques que transmettent aujourd'hui beaucoup de religions, beaucoup de ouais. Vraiment de pensée dogmatique. Donc moi, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Ben, je vous dis, c'est les deux. C'est à la fois cette sorte d'immense ouverture et ils peuvent aller vers absolument vers tout, vers beaucoup de poésie, vers beaucoup de recherche, beaucoup de construction. Ou au contraire, des adultes peuvent en faire des petites choses formatées.
Ah oui, ça, on voudrait pas en faire des petites choses formatées de nos enfants. Christophe Blain, est-ce qu'ils peuvent lire King Kong sans souci?
Ben oui, évidemment.
King à partir Kong, de quel âge?
Oh bah, il faut leur lire, je sais pas, peu importe, il faut...
Ça se termine mal, vous savez.
Oui, alors, c'est très bien que ça se termine mal. Les enfants adorent les histoires qui font peur et qui se terminent mal, il faut leur lire. Moi, je sais pas, j'ai été élevé comme ça par mes parents, et j'ai procédé de la même façon avec mon fils. C'est-à-dire que le moment de la journée que je préférais, c'est le moment où qu'il s'endorme, je lui lisais des histoires. J'ai été élevé dans les livres d'images. Je l'ai élevé aussi dans les livres d'images. C'est la chose la plus agréable à faire. Et à partir de là, par rapport à ce que disait Michel Picmal, la chose que je cherche et que j'ai cherché à, j'ai tenté, parce que quand on est parent, on fait que des... Enfin, c'est quelque chose d'expérimental, on ne sait pas le faire. On apprend en faisant, puis on ne sait pas bien comment... Si on a raison ou pas. Mais c'est le côté du... Chose qui m'a énormément marqué dans ma propre enfance, c'est le choc esthétique. C'est-à-dire, il y a des moments, par exemple King Kong, je ne sais pas, Les Aventures de l'Arche Perdue, tout ce que vous voulez, que ce soit au cinéma, dans un livre, une image, c'est la fascination qu'elle peut apporter à un enfant à un moment et qui s'en souviendra toute sa vie et qui va... il va y avoir quelque chose d'étrange autour de la... Il va développer quelque chose autour de ça.
Alors vous, votre premier choc esthétique, vous me tendez la
page. Le premier, je saurais pas vous.
Principaux, mais.
J'en ai eu tellement, mais ils étaient que ça soit à la télévision, que ça soit dans des bandes dessinées. Je pense que c'est le western qui était l'image du western, l'image des États-Unis m'a énormément marqué quand j'étais gamin. J'ai pas le temps d'essayer de développer pourquoi, mais d'ailleurs je le sais pas tout à fait, puis ça reste mystérieux et c'est tant mieux. Mais j'ai essayé, alors, c'est plus difficile de le faire pour des enfants maintenant parce que l'accès aux choses est immédiat. Évidemment c'est une tarte à la crème, mais à cause d'Internet, et de trouver des pépites, des choses qui vont attendre, des choses qui vont avoir de la valeur le moment où ils vont le voir. Donc j'ai essayé en tant que père de recréer des cérémonies à des moments où je devais montrer des choses, et c'est ce que j'ai vécu avec King Kong. Mes parents ont créé une petite cérémonie le jour où ils ont voulu me le montrer, parce qu'il passait à la télé sur une chaîne... je sais plus si c'était la première, la deuxième ou la troisième, à l'époque il y en avait que trois, et un dimanche soir ils m'ont dit on va te montrer un film et c'est important que tu le vois, il va peut-être te faire peur, etc. Donc je l'ai vu entre eux et il y avait voilà, et à chaque fois que moi j'ai il y a des films qui me semblaient importants ou qui étaient fascinants, j'ai cherché à ne pas les montrer comme ça, comme des objets de consommation qui passaient, mais de créer une petite cérémonie. De la, je sais pas, je vous donne un exemple. Quand les films des Seigneurs des Anneaux étaient sortis, j'ai pas voulu que mon fils les voie comme ça. Je lui ai d'abord lu tous les soirs pendant plusieurs semaines. Je lui ai lu tous les bouquins de Tolkien et en essayant d'imiter toutes les voix, que ce soit quelque chose dont il se souvienne. Et après, il a vu les films. Il y a des choses que j'ai fait comme ça. La première fois où il a vu La Guerre des Étoiles, j'ai pas voulu que ça soit sur une petite télé entre deux. J'ai voulu créer une cérémonie, etc. Et que ça soit quelque chose d'important pour lui. Ça pouvait pas l'être autant que ça l'a été pour moi à l'époque, parce que je ne découvrais les films que éventuellement à la télévision ou au cinéma quand ils sortaient, et on n'en avait pas un accès aussi facile, donc ils avaient beaucoup plus de valeur. Mais ça, pour moi, c'est très important. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourra tenir encore, mais moi j'ai essayé de le tenir en tant que père, en tout cas.
On parlait de vos imaginaires de jeunesse. On recevait la semaine dernière François Skuyten pour la suite qu'il a donnée aux aventures de Black et Mortimer de Jacobs. Ça, c'est une série, les Black et Mortimer, avec laquelle vous avez eu des atomes crochus.
Ce genre de choses, quand on les a pas lues gamins, ou qu'on n'a pas accroché à partir d'un certain âge, c'est foutu, parce que quand on lit ça adulte, on trouve ça assez lourdingue. Mais ce qui est mon cas. Mais je sais pas, parce que c'est parce que je l'ai pas lu quand j'étais enfant. Black et Mortimer, autant j'adore Tintin, j'ai appris à lire avec Tintin et Lucky Luke, en fait. Donc pour moi, ce sont des choses totalement... ça fait partie des chocs esthétiques. J'ai découvert que je savais lire un jour tout seul avec un Tintin, et je les regardais avant pendant des heures sans être capable de... J'inventais moi-même l'histoire. Je me rappelle plus exactement ce qui se passait. J'avais 4 ans, mais je sais que j'ai toujours eu des bandes dessinées dans la main et des livres d'images. Black et Mortimer en l'occurrence, c'est précisément quelque chose que j'ai découvert trop tard. Les premiers, j'ai dû les lire à 12-13 ans, et ça m'a pas du tout intéressé. C'était trop tard, c'était foutu. Il aurait fallu que je les découvre plus tôt.
Au festival Lyon BD, ce week-end, il y a eu la venue de Charlie Adlard, le dessinateur comics de The Walking Dead, adapté en série pour la télé. Ça a été, et c'est en ce moment, un gros succès, les zombies, à la fois à travers le film de Jarmusch, celui de Bertrand Bonello qui sort en ce moment. Après les pirates, les cow-boys, les morts vivants, Christophe Blain, ça vous dirait? Vous nous dessineriez comment un zombie? Il ressemblerait à quoi, le vôtre?
Je m'interdis rien, mais non, là, tout de suite, comme ça, ça me parle pas. J'ai d'autres choses à traiter. Et j'ai pas... Ah si, il y a des films de zombies. Si, les films de Danny Boyle m'avaient marqué, parce qu'il était un des premiers à proposer quelque chose d'alternative pour les zombies. Les autres exemples que vous m'avez cités ne m'ont pas du tout convaincu. Walking Dead m'a amusé. Moi, j'ai vu la série pendant... Je m'amusais sur quelques épisodes, puis après j'ai trouvé que c'était vraiment trop maltraité. Et quitte à faire ça, autant le faire en envisageant toutes les possibilités de ce qui se passait dans une réalité comme ça. Donc les zombies, puis c'est tellement traité que ça ne me fait pas envie. Non, les zombies ne m'attirent pas plus que ça.
Voilà, sauf à réinventer complètement le zombie, c'est-à-dire ni les mains abattues, un peu pendantes, le dos courbé.
Il faudrait trouver autre chose. Mais sinon, c'est un zombie assez agréable à dessiner, je pense.
Ouais. Merci beaucoup à vous, Christophe Blain. King Kong, donc avec Michel Picmal, ressort chez Robinson Édition. Vous rappelez que donc à la fin du mois, une exposition de vos dessins. On y trouvera de tout, de langue de Chine, du pastel, du fusain, dans cette exposition de vos dessins de King Kong.
Oui, c'est une cuisine. Moi-même, je ne me rappelle pas comment je l'ai fait.
Merci beaucoup à vous.